Bonjour, bienvenue sur Radio Campus Tour 99.5. Nous sommes dans les locaux du Petit Faucheux où plusieurs groupes se produisent cet après-midi. Et nous sommes avec Florence Epcha du duo Finlam, duo solo puisque il est seul face à nous, mais il va parler au nom du groupe. Bonjour Florent.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Campus. Rapidement, peut-être pour nos auditeurs, représenter la formation musicale à laquelle vous appartenez. Et puis rappelez votre dernière sortie album.
Alors le duo Finlam, c'est un duo qui s'est monté justement il y a 5 ans maintenant, et ça tombe bien qu'on soit au Petit Faucheux parce qu'on a fait notre premier concert au Petit Faucheux il y a 5 ans maintenant. Et c'était au départ une carte blanche qu'avait Renaud en fait pour inviter un musicien, voilà, et il a décidé de m'inviter. Et finalement, ce qui devait être un one shot, ça s'est transformé en un vrai groupe en fait qui a perduré. On a fait un premier album donc il y a 4 ans maintenant, et un deuxième album là qui s'appelle Intime Brubeck, et qui vient de sortir le 2 avril dernier.
On va rappeler aussi à nos auditeurs que votre duo, donc vous êtes à l'accordéon,
ouais,
accordéoniste, et ben, votre collègue il est au vibraphone et au marimba. Peut-être rappeler aussi ce que sont ces deux instruments. L'accordéon, je pense que ça parle
à tout le monde.
Rappeler les deux autres instruments.
Alors ouais, vibraphone et marimba, c'est deux claviers percussifs. C'est comme le piano, donc on peut faire toutes les notes dessus. Il y en a un qui est avec des lames en métal, c'est le vibraphone. Et il y a le marimba qui est avec des lames en bois. C'est voilà.
Ouais. Et le marimba qui est un instrument qui vient d'Afrique, utilisé aussi dans la Caraïbe et en Amérique latine.
Ouais, alors à l'origine c'est un instrument africain et ensuite il a été déplacé et il est revenu après en Europe. Mais à l'origine c'est le balafon qu'on trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest et qui est arrivé après au Mexique, aux Caraïbes, tout ça. Et il est revenu encore en Europe après pour devenir un instrument qui est dans l'orchestre, en fait, qui est dans le set de percussion de l'orchestre. Donc voilà.
Donc on vous avait évoqué votre dernier album, Intime Brubeck. Bon, pour tous ceux qui ont une oreille un petit peu jazzophonique, le clin d'œil à un autre grand musicien du jazz, Dave Brubeck, sera peut-être pas passé inaperçu. Avec cet album, vous souhaitiez faire un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, un hommage.
Ouais, effectivement. Alors c'est vrai qu'on peut le lire de deux façons en fait. Soit intime en français ou soit in
oui.
time.
Oui.
Et ça fait référence en fait à un album très connu de Brubeck qui s'appelle Time In, qui a été voilà, un de ses plus gros succès en fait à l'époque. Il y a tous les tubes Tech 5, enfin voilà, qu'on connaît. Et on a profité aussi que c'était les 100 ans de sa naissance en fin d'année dernière. Voilà, on s'est dit ça peut être une occasion de faire un petit hommage sur Brubeck, qui a plein d'éléments dans sa musique en tout cas qui nous parlaient, notamment il a créé un mouvement un petit peu qui s'appelle le Third Stream, qui est vraiment un mélange de jazz, de classique, et nous ça nous parlait vraiment, vu que sur l'album d'avant et sur le répertoire d'avant on était plus sur des compositions. Là, on s'est dit, tiens, on va essayer de s'attaquer à un monument.
Ouais, un monument qu'avait beaucoup joué Brubeck. Il était connu parce qu'il avait beaucoup joué sur les rythmes, les tempos. Il avait cassé pas mal de codes à l'époque.
Oui.
Et moi, je voulais savoir si vous aussi, du coup, dans la composition de cet album, vous étiez engouffré aussi dans ce mouvement-là.
Bah, complètement. Et il faut dire quand même que Brubeck, c'est un des premiers à avoir fait un tube en 5 temps. Quoi. Le Tech 5. C'est ça a été vraiment un tube, hein, c'était le premier dans les charts pendant plusieurs semaines et tout, et c'était le premier tube en 5 temps, donc c'est vrai que c'était une prouesse un petit peu, parce que ça pourrait paraître complexe de faire des choses qui ne sont pas du 3 temps ou du 4 temps, et en fait ça a très bien marché, et je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas que c'est du 5 temps, en fait ils le chantent naturellement et tout. Et c'est vrai que nous l'aspect rythmique sur le répertoire qu'on avait avant, il était déjà très présent, et on l'a encore développé sur cet album là où il y a beaucoup de ce qu'on appelle des rythmiques impaires aussi, du 7 temps, du 11 temps. Il y a un morceau d'ailleurs dans le CD qui est un petit clin d'œil, qui s'appelle Tech 11, donc ça fait vraiment référence à ça, et donc c'est un morceau en 11 temps, donc on a bien aimé s'amuser avec ça aussi. Ouais.
Ouais. Et d'ailleurs, à la lecture des différents titres qui composent cet album, on a Rondo, on a Ibericana, Tech Eleven, bon, qui font directement référence à des titres de Dave Brubeck, Blue Rondo à la Turque, Iberia, Tech Five. Ouais. Donc voilà, vous êtes sur plusieurs morceaux comme ça, réinterprétation, ouais. Composition de votre part.
Complètement, c'est des clins d'œil, c'est des compositions qui font clin d'œil effectivement à des compositions de Brubeck. Pour Rondo, c'est vraiment très différent parce que c'est un compositeur extérieur qui l'a écrit, qui s'appelle Pablo Pico, qui est un compositeur qui est sur Tours et qui fait beaucoup de musique à l'image, notamment de la musique pour des films d'animation. Donc il avait déjà créé un morceau pour l'album précédent et il a fait quelque chose de très personnel avec Rondo, justement, où c'est un hommage assez distancié comme ça. Ça fait très, très musique narrative, musique à l'image et c'est une belle réussite.
Un album très narratif, dans votre cas aussi, avec un titre, je pense, Brubeck, il a été repris aussi par d'autres musiciens s'en sont inspirés, je pense à Minoru Muraoka, je vais essayer de bien le prononcer, qui avait fait aussi une reprise de Tech Five. Le Japon, on y va à la toute fin de votre album avec un titre qui s'appelle Tokyo Traffic.
Oui.
Un morceau qui, voilà, qui transporte un peu, il y a toute une harmonie, une musicalité dans ce titre. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus.
Ouais, c'est vrai que quand on a commencé, on connaissait, je pense, comme tout le monde, Brubeck avec ses tubes, etc. Moi, d'ailleurs, j'ai plus connu Brubeck à travers Claude Nougaro, que mon père écoutait pas mal. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de morceaux de Nougaro qui étaient des morceaux de Brubeck. Il avait mis en musique, donc c'est marrant comme ça traverse en fait différents artistes et comment on peut revenir à un artiste comme ça. Et tout l'aspect, effectivement, il y avait un côté très perméable chez Brubeck. Il a fait une tournée justement au Japon et il s'est nourri de la musique qu'il a découvert là-bas. Et il a transposé ça dans le jazz avec pas mal de titres. Donc il y en a d'ailleurs trois dans l'album. Il y a Tokyo Traffic, effectivement. Il y a Koto Song. Et il y en a un troisième aussi, je ne sais plus le nom. Je ne l'ai plus, mais il y en a un troisième. ça nous parlait vraiment. Parce qu'il y a une sonorité quand même avec le marimba, notamment. Qui fait penser à ces sonorités un peu japonaises, justement, avec le côté boisé, tout ça. Donc ça nous a parlé beaucoup. C'est pour ça qu'on a mis trois titres un peu japonisants dedans.
Et ben on va faire justement une première pause. On va aller dans les bois au Japon, tout en jazz et en musique.
C'est bon, quoi.
Thank you.
Radio Campus Tour 99.5. Nous sommes toujours en direct du Petit Faucheux et nous sommes avec Florence Epcha du duo Finlam. On était au Japon, on était à Tokyo. Un titre qu'on peut retrouver sur votre album Intime Brubeck qui est sorti le 2 avril. Un titre sur lequel vous êtes plus qu'en duo. Vous avez des invités aussi sur cet album. Vous avez d'autres musiciens qui vous ont rejoint.
Oui, tout à fait. Donc sur ce titre-là, on avait Jean-Baptiste Réau, qui est saxophoniste, un ami de longue date. Et on a vraiment pensé à lui quand on a fait cet album sur Brubeck, parce qu'il y avait, beaucoup de... chez Brubeck, il y avait un saxophoniste qui l'accompagnait régulièrement. On avait vraiment envie d'avoir un saxophoniste.
Apporter un peu de cuivre.
Voilà, hein. C'est ça.
Puisqu'on parle des instruments, vous composez et vous jouez avec des instruments qui sont reconnus dans l'univers du jazz, mais qui sont quand même relativement méconnus du grand public, ou peut-être pas appréciés à la valeur qui est la leur, en tout cas dans la musique que jazz. Est-ce que la musique que vous faites est une manière de montrer qu'on peut tout faire avec chacun de ces instruments?
Alors c'est vrai que ça soit pour le vibraphone ou le marimba ou l'accordéon, c'est des instruments qui sont un petit peu à la marge, en fait. Quand on pense jazz, on ne pense pas tout de suite à ces instruments-là, on pense plutôt à la trompette, au sax, à la batterie, à la contrebasse, etc. Parce que c'est l'histoire aussi du jazz qui veut ça. Alors pour le vibraphone, c'est vrai que c'est un instrument qui est arrivé dans les années 50 dans le jazz, on en a vu pas mal. L'accordéon, ça arrivait un petit peu plus tard. Hein, c'est vraiment Galliano qui a été la figure de proue un peu d'accordéon dans le jazz. Et c'est vrai que d'associer les deux, ces deux instruments qui sont un peu à la marge, c'était une volonté aussi de, oui, effectivement, de montrer qu'on peut aborder ces musiques-là, finalement avec n'importe quel instrument et des instruments qui sont moins étiquetés, entre guillemets, jazz.
Vous-même, quand vous avez commencé l'accordéon, à quel âge déjà vous avez commencé l'accordéon? Est-ce que vous imaginiez intégrer une formation de jazz avec cet instrument?
Assez rapidement, en fait, c'est dans ce que j'écoutais dans la musique, ça m'intéressait, cette musique-là. Et la révélation, ça a été vraiment Galliano. Quand j'ai eu 14 ou 15 ans, que je l'ai découvert, ça a été vraiment une révélation. Avec d'autres musiques d'ailleurs, parce que moi j'ai commencé l'accordéon, comme beaucoup de gens, j'ai fait du bal très tôt. Mon père faisait des bals le week-end et tout, donc je faisais danser les gens. Et puis très rapidement, j'ai découvert plein d'autres musiques, hein, les musiques du monde, les musiques de l'Est, musique sud-américaine, tout ça, enfin tout ce qui était possible, j'étais très curieux. Et le jazz, ça faisait partie de ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi.
Vous avez fait danser les gens avec cet album, Intime Brubeck. Vous les emmenez en voyage, parce qu'il y a une vraie narration, votre album, voilà, qui s'écoute, voilà, sur toute la longueur. Il y a une légèreté, parfois c'est un peu poétique, comme sur le titre qu'on a écouté tout à l'heure, Tokyo Traffic. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime dans le projet musical, dans la composition, de construire quelque chose, une sorte de début, un milieu, une fin
Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. C'est vrai que ces deux instruments qui peuvent être très planants, entre guillemets, quoi. Oui. On peut vraiment créer des espèces de climat, et même dans les compositions qu'on fait, on essaye de toujours avoir une espèce d'histoire. Et on avait d'ailleurs monté un projet qui s'appelait Bande Originale avec Pablo Pico, là, qui a écrit des morceaux, où c'était des morceaux de musique de film sans film. Donc il y avait quand même cette volonté toujours de raconter des histoires, d'évoquer des images. Voilà, sans avoir forcément ce support d'image, mais de l'évoquer musicalement, quoi.
En parlant d'image, on va aussi peut-être dire un petit mot sur la pochette de votre album. C'est alors une dominante de couleur bleue, c'est à la fois géométrique, c'est aérien. Le dessin n'a rien à voir avec les tableaux de Joan Miró qui illustraient les pochettes de Brubeck. À moins qu'il y ait quand même un rapport, comment elle s'est composée, cette pochette.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne voulait pas une photo de nous sur l'album. Et autant, pour revenir un petit peu à Brubeck, justement, il s'est beaucoup inspiré de l'art pictural de son époque, notamment Miró, mais aussi d'autres peintres de son époque. Il était très attiré par la peinture abstraite, notamment. Et d'ailleurs, l'album Time In, il a utilisé en fait des numéros qu'il y avait sur les tableaux de Miró. Pour faire, mon premier morceau, il sera en 3 temps, mon deuxième sera en 7, mon troisième sera en 5. Donc c'était très conceptuel comme approche, quoi. Chercher des trucs un petit peu cachés derrière, ça lui servait un peu de base pour faire ses compositions. Donc nous, on avait envie en tout cas de faire quelque chose de graphique. Et voilà, on l'a fait avec Vicky, qui est notre graphiste dans le collectif. On est parti sur cette idée-là, de faire quelque chose plutôt de pictural, quoi.
Pour nos auditeurs qui souhaiteraient découvrir le marimba, le xylophone, le vibraphone, l'accordéon aussi, comment faire, à quel âge, vers où se diriger, comment ça se passe ?
Ah bah, le plus tôt qu'on peut, c'est le mieux. Mais après, on peut commencer à n'importe quel âge. Je sais qu'on a des formations assez différentes, notamment avec Renaud, il a plutôt fait la voix du conservatoire, parce que c'est un instrument qui est présent là dans les classes de percussion. D'ailleurs, on ne fait pas que du vibra ou du marimba, on fait aussi tous les instruments de l'orchestre en percussion. C'est ça qui est très compliqué d'ailleurs en percussion, c'est qu'on se retrouve à faire une multitude d'instruments, aussi bien de la caisse claire que les claviers, que les cymbales, les accessoires. C'est beaucoup d'instruments. Après, Renaud, lui, s'est un peu spécialisé sur ses instruments à clavier, parce qu'à un moment, il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire hyper bien. Alors l'accordéon, ça, maintenant, il est dans beaucoup de conservatoires, pas encore à Tours, mais dans beaucoup de conservatoires, il y est de plus en plus. Et bon, faut pas oublier aussi que, parce qu'il y a plein de types d'accordéons, en fait, il y a ce qu'on appelle des accordéons basses chromatiques, qui sont ceux enseignés dans les conservatoires, justement, où on peut, c'est comme un piano, on a les deux mêmes claviers, on peut faire des mélodies à la main gauche, etc. Alors que sur le mien, par exemple, je peux faire des basses, des accords, mais je peux pas faire vraiment j'ai pas un clavier mélodique à la main gauche. Mais faut pas non plus oublier les racines des instruments, quoi. C'est que l'instrument, ça reste l'accordéon reste un instrument qui est populaire et où il y a énormément de répertoire dans la musique populaire, dans la musique de danse, dans tout ça. Donc je pense qu'on peut pas non plus faire l'impasse sur cet aspect de l'instrument de musique populaire, même si on peut jouer du Bach avec l'accordéon et c'est magnifique, quoi. Mais je pense qu'il faut avoir un esprit assez ouvert et large quand on aborde ce genre d'instrument.
Et puis, avant de laisser la parole à mon collègue Julien, une dernière question musicale pour nos auditeurs qui ont déjà la chance de vous entendre sur notre antenne, mais qui souhaiteraient vous voir en vivant sur scène. Ça sera normalement prochainement possible. Est-ce qu'il y a déjà des dates de prévues ?
Alors, il y a des dates de prévues, effectivement, mais je préfère pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est beaucoup de choses qui sont en suspens vu le contexte sanitaire. Donc, le mieux, c'est d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook, hein, Duo Finlam, ou bien sur le site de la Saugrenue, lasaugrenue.fr, et c'est actualisé régulièrement. Et va y avoir des concerts, en tout cas, il y en a qui sont prévus, qui vont se maintenir, j'espère, et on va jouer cet été, ouais.
Et t'en as parlé, Sébastien, juste avant, ce nouvel album qui est sorti et qui nous fait voyager. Il a été créé pendant une période un peu compliquée où justement les déplacements étaient un peu limités. Est-ce qu'il y a eu un lien, une volonté de créer un album qui nous fait voyager justement dans cette période où le voyage n'est pas possible ?
Alors, pas vraiment, parce que c'est vrai que le c'est pas directement lié, parce que l'enregistrement était prévu il y a un an, justement, en avril dernier. Et on n'a pas pu le faire à cause de ce confinement et on l'a enregistré finalement en août dernier.
Okay.
On a reporté, donc c'est vrai que c'est pas vraiment lié. C'est pas vraiment lié. Alors c'est marrant que ça puisse avoir un écho comme ça d'ouvrir les frontières, tout ça, mais bon.
On va le prendre quand même. Même si c'est pas la volonté, on va dire que c'est fait pour ça.
Voilà, carrément, on peut le dire.
Et justement, cette année un peu compliquée qu'ont vécu tous les artistes, vous, comment vous l'avez vécu ? Il y a eu cette conception d'album, mais vous avez fait quoi d'autre ? Vous avez réussi à travailler, à inventer des choses ? Ou est-ce que c'était plus difficile dans ce contexte ?
Bah, c'est plus difficile parce qu'on pouvait pas vraiment se voir pour répéter. Et nous, on fait vraiment une musique vivante, c'est-à-dire qu'on peut pas enregistrer un bout de truc chez nous et puis l'envoyer à l'autre qui l'enregistre par-dessus. Donc c'est vrai que du coup, on s'est beaucoup concentré sur cet album qu'on a fait des arrangements aussi chez nous, effectivement. Et puis dès qu'on a pu jouer ensemble, on a mis en œuvre ces petits arrangements. On a bien préparé la sortie aussi, qui malheureusement a un peu fait plouf parce que l'album est sorti il y a à peine un mois et on avait des concerts de prévus un petit peu partout et puis bon, tout est un peu repoussé, mais ça va quand même se faire. Mais
ouais, on a l'impression maintenant de voir une issue un peu, ces concerts, on a l'impression qu'ils vont arriver là dans les semaines à venir. Vous avez l'impression que ça va sauver votre année, ces concerts estivaux, cette fin d'année qui s'annonce meilleure?
Bah, je ça va pas sauver notre année en termes de volume de concerts, ça c'est sûr. Après, on a tous d'autres activités aussi qu'on peut faire à la maison. Notamment, enfin, pour ma part, moi, je fais pas mal d'arrangements, des choses comme ça. J'écris de la musique. Après, non, ça va pas suffire l'été clairement pour sauver notre année. Donc, on va essayer de pousser cet été le plus possible, en septembre, octobre. D'ailleurs, il y a pas mal de programmations qui se repoussent beaucoup, là, septembre, octobre, notamment des choses qu'on n'a pas pu se faire en mai-juin.
Ouais, qui vont s'étendre un maximum pour vous permettre, justement, eh bien d'avoir plus de concerts et de faire plus de choses. L'année dernière, il y a eu une année blanche qui a été décrétée pour les intermittents. Cette année, ce n'est pas vraiment le cas. Est-ce que vous avez l'impression que la situation va revenir un petit peu comme avant, mais cependant, ce sera compliqué quand même pour vous ? Est-ce que vous avez peur d'être un peu oublié ? Est-ce que vous espérez avoir bien des mesures pour vous aider ? Je pense notamment à Tours Nord, devant le Pôle emploi, il y a une personne qui a fait une grève de la faim parce que ses droits étaient bloqués. Comment vous voyez cette situation évoluer ?
Ben, il va falloir vraiment avoir du dialogue, et puis je pense qu'il faut vraiment voir les cas sont très très différents en fait, en fonction des gens. S'ils jouent en salle, par exemple, tous les gens qui jouent habituellement en salle, je pense aussi au théâtre et à la danse, ils n'ont pas du tout joué depuis mars dernier. Ensuite, il y a eu l'été, mais tous les spectacles en salle, la plupart des saisons sont fermées l'été. Le Petit Faucheux, par exemple, ou d'autres salles sont fermées l'été. Donc, il y a eu une réouverture très courte, finalement, en octobre, fin septembre, début octobre. Et puis après, ça s'est refermé. Donc, pour tous les gens qui jouent en salle, eux, ils sont vraiment pas bien, quoi. Ils ont vraiment pas joué. Alors, ceux qui ont des concerts, qui ont pu jouer un petit peu cet été, qui ont des choses en extérieur, je pense qu'ils ont pu un peu faire quelques dates, mais ça reste quand même chaud pour beaucoup de gens, je pense.
Ouais, et pour finir, j'aimerais qu'on parle de l'Assaut Grenouille, on n'en a pas trop parlé.
Ouais.
C'est grâce à eux qu'on est là aussi, ils nous ont invités ici au Petit Faucheux, donc on les remercie. Qu'est-ce qu'ils vous apportent au quotidien dans votre travail d'artiste ?
Ah bah c'est énorme, parce que ça nous apporte énormément de choses, hein, donc tout l'aspect... administration déjà, ne serait-ce que pour établir les contrats, pour faire les fiches de paye, pour l'aspect chercher des dates aussi, parce qu'il y a énormément d'artistes qui cherchent leurs dates eux-mêmes. Nous, on a la chance d'avoir plusieurs diffuseurs qui travaillent à nous chercher des dates. On a un gros support aussi pour tout ce qui est communication, les sites web, les réseaux sociaux. Ce collectif, il va avoir 20 ans l'année prochaine. Et on est très heureux aujourd'hui que ça se soit développé, parce que enfin moi je fais partie des fondateurs du collectif. Donc il y a 20 ans, on a fondé ce collectif, on n'avait pas grand monde autour de nous, donc on a un peu fait toutes ces choses nous-mêmes au début, hein, faire les premiers fly, les premiers CD, faire nous-mêmes les enregistrements, trouver nos dates, faire nos contrats, machin. Enfin, donc on sait à peu près tout ce boulot-là, ce que c'est. Et d'avoir aujourd'hui des gens qui nous aident à faire ça et pouvoir se concentrer à ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire faire de la musique, faire des projets artistiques, c'est vraiment un plaisir.
Ça vous décharge en fait de tout ça, ça vous permet de vous concentrer complètement,
complètement
sur la musique. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Campus Tours pour cette émission spéciale. Il me semble qu'on va de nouveau écouter un morceau du duo Finlab, c'est ça Seb ?
Oui, le titre Rondo, qui est un titre qui est librement inspiré par le duo Finlab de Dave Brubeck.
Tout à fait, c'est une composition de Pablo Pico, à qui on fait un petit coucou si il nous écoute, voilà.